Sí, señor.
Mira con qué.
Mon micro, alors est-ce que c'est de l'art, du dressage?
Alors, je pense que ce débat, en fait, il s'engage mal quand on essaye de faire un ou bien. Et je me souviens que j'avais lu il y a quelques années d'ici, après avoir été moi-même voir ces éléphants en Thaïlande, que Desmond Morris, qui est un spécialiste de l'art chez les animaux, tellement bon spécialiste d'ailleurs qu'il avait adopté un chimpanzé nommé Congo, et qu'il avait étudié comment ce singe apprenait à peindre, et puis qu'il avait vendu très 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 cher l'étoile de Congo, donc finalement, c'était tout bénéfice pour lui. Et donc, il est allé en Thaïlande lui-même et il a écrit un article. Alors, il faut préciser pourquoi ces éléphants peignent en Thaïlande. En fait, depuis quelques années, la loi thaïlandaise interdit le transport du bois. Donc, les éléphants n'ont plus le droit de transporter du bois. Donc, qu'est-ce qu'on fait des éléphants? Bon, on les a mis dans des sanctuaires puisqu'ils ne sont plus capables de retourner dans la vie sauvage. Et puis, il faut des tonnes et des tonnes et des tonnes de bananes pour nourrir les éléphants. Eh bien, les éléphants participent, d'une certaine manière, gagnent leur pain à la sueur de leur front ou à la sueur de leur trompe. Alors, bon, on les a donc mis en contribution. Alors, Desmond Morris va voir les éléphants, et puis il revient, et il va écrire un article pour démystifier. Et voilà ce qu'il écrit. Je vais devoir lire, parce que je ne connais pas le texte par cœur. « Pour la plupart des membres de l'audience, donc il parle de ceux qui assistent au spectacle, ce qu'ils ont vu leur apparaît presque miraculeux. Les éléphants doivent être presque humains du point de vue de leur intelligence s'ils peuvent peindre des images de fleurs et d'arbres de cette manière. Mais ce à quoi, et c'est lui toujours qui parle, hein, mais ce à quoi l'audience ne prête pas attention, ce sont les gestes des cornacs lorsque leurs animaux sont au travail. » Donc d'après Desmond Morris, le cornac tirait l'oreille de l'éléphant en bas, à droite, à gauche, selon les traits qui sont à faire. Voilà, et donc ce serait ce qui conduit Desmond Morris à conclure, et ces mots sont importants, « Tristement, le dessin que l'éléphant exécute n'est pas le sien, mais celui de l'humain. Il n'y a pas d'intention éléphantine, pas de créativité, juste une copie docile. » Alors, bon, moi, je suis allée voir ces éléphants, je n'ai pas vu que les cornacs tiraient les oreilles, mais peut-être qu'ils ont d'autres trucs, donc on ne va pas discuter là-dessus. Peut-être qu'on tire les oreilles dans le sud de la Thaïlande où Desmond Morris était, et qu'on fait autre chose dans le nord. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir la manière dont Desmond Morris s'exprime. Et il dit « tristement ». Eh bien, c'est le signe, ce mot « tristement », qui me fait reconnaître qu'on a affaire à un rabat-joie. Et je vais dire, ça m'étonne d'ailleurs toujours, de voir à quel point le zèle des scientifiques qui se précipitent pour endosser le rôle de rabat-joie et l'héroïsme admirable avec lequel ils se chargent du triste devoir de nous annoncer de très mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la joie qui est raplatie et rabattue dans cette histoire. D'ailleurs, comme dans toutes celles où les scientifiques se dévouent à la cause de la vérité qui devrait nous dessiller les yeux, le parfum reconnaissable entre tous du « ce n'est que ». Ce n'est que et ce n'est que signe en général une croisade du désenchantement. Mais ce désenchantement ne s'opère qu'au prix, je trouve, d'un lourd et pas très très honnête malentendu sur ce qui enchante et fait la joie. Qu'est-ce qui fait la joie dans cette histoire? En fait, ce malentendu ne tient qu'à croire que les gens croient de manière très naïve au miracle, qu'ils seraient dupes. Or, personne n'est dupe dans cette histoire. Les gens savent très bien que les éléphants ne peignent pas tout seuls spontanément, qu'ils ont dû apprendre et que ça tient du dressage, et que c'est un dressage qui n'a rien de doux et d'innocent. Et pourtant, la magie est là. Et ce n'est pas de la magie d'un éléphant peintre à laquelle on assiste, mais la magie d'une performance dans laquelle des gens et des animaux font quelque chose de surprenant ensemble. Tu m'écoutes, Jade?
Oui.
Je trouve aussi que c'est complètement surprenant, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que quand même, on leur prend, on les transforme un petit peu quand même en copistes, et surtout, ils font de l'art humain.
Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tricherie dans cette affaire-là, puisqu'en fait, on n'est pas très juste avec les animaux, puisqu'on leur demande toujours de faire des choses qui sont les nôtres, que ce soit pour la cognition, pour l'art, etc. La plupart du temps, on leur demande de faire aussi bien que nous ce que nous avons appris à faire, et ce qu'on considère d'ailleurs comme étant de notre ressort. Alors peut-être qu'on devrait plutôt chercher là où ils sont eux-mêmes artistes, là où ils font dans leur propre gestuelle, dans leur propre corps. Peut-être qu'il faudrait aller chercher là où ils produisent leur propre type d'art. En fait, il faudrait réinterroger les animaux sur la manière dont ils sont capables eux-mêmes de produire de la beauté et peut-être même, on va essayer, de l'art.
Et d'autres façons, oui. Peut-être de rencontrer l'animal, de le provoquer dans, et de le chercher dans une autre forme. Monsieur, ah oui, là je crois que Vincien, il se fait pas à l'éléphant. Tu vois ce que je veux dire sur la beauté animale? Il est allé à l'éléphant. Venez nous rejoindre, monsieur. Venez nous rejoindre. Vous voulez essayer peut-être avec ça? Je vous laisse faire. Je sais pas, j'aimais presque mieux les autres. Oui? Est-ce qu'on reconnaît l'éléphant? Je préférerais peut-être... Voilà. Je sais pas, il y a quelque chose de plus vrai, non? Il y a quelque chose de plus vrai. Bon, tu vas rester avec nous? Tu vas rester avec nous? D'accord. Cyril, voilà, merci, oui. Et on va voir l'éléphant autrement. Pascal?
Thank you.
trouve ça très troublant. Et je me demande quand même, Vinciane, si c'est pas la musique qui nous influence pour le recevoir d'une certaine façon.
C'est certain que c'est un film de Chris Marker qui s'appelle Sloan Tango, Sloan étant le nom de l'éléphant en russe, et sur une musique de Stravinsky. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu une première fois parce que je m'intéressais à Chris Marker et puis j'ai coupé le son en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a fallu que je coupe le son pour me rendre compte de ce dont il s'agissait. En fait, ce sont les stéréotypies de l'animal en captivité qu'on rencontre et chez les éléphants et chez les ours. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais à quoi on a affaire finalement? C'est vrai que c'est très beau. Et en même temps, on se rend compte que c'est le signe d'une profonde pathologie liée à la captivité. Alors, si on enlève la musique, ben oui, c'est la pathologie qui apparaît. Et si on met la musique, et c'est là où vient le malaise, et si on met la musique, c'est quelque chose de très beau. Et ce que Chris Marker me semble avoir fait, c'est qu'il a rendu avec la musique certains gestes remarquables d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a intensifié la dimension de beauté de ses gestes, alors que ces gestes, en soi, c'est une beauté tragique, finalement.
Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne dedans, c'est qu'en fait, on l'a privé de liberté, donc ça peut ressembler effectivement à un acte artistique, ça ressemble à ce que font les danseurs, en fait, les chorégraphes, où on voit vraiment ça, mais est-ce qu'il ne te semble pas qu'on les a conduits justement dans cette absence de liberté à peut-être à leur donner des limites? Et on les a conduits dans une profonde mélancolie et peut-être même avoir conscience de la mort. Alors, pour qu'ils fassent des choses comme ça, moi, ça me laisse profondément mélancolique.
Alors, nous sommes mélancoliques. Alors, est-ce que les éléphants sont mélancoliques? Je n'aime pas de dire non et je n'aimerais pas de dire oui. Mais je n'aimerais pas non plus d'attribuer à l'éléphant une motivation de mélancolie à la naissance d'un geste artistique. Parce que je pense que là, c'est vraiment un problème qui serait vraiment trop... et même pas le nôtre, c'est pas un problème d'humain, il n'y a pas besoin d'être mélancolique pour faire de l'art, c'est une conception de la motivation artistique dans une configuration culturelle et historique très particulière. Et donc, si c'est déjà pas un problème d'humain en général, il n'y a pas de raison que ce soit un problème d'animaux en général, donc finalement, il n'y a pas de généralité qui soit possible. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que ce qui est mis en scène ici, enfin, en tout cas, ce à quoi Chris Marker nous interpelle, c'est qu'il peut y avoir, je vais dire, production artistique sans intention artistique. Je vais dire production de beauté sans intention de beauté. Et on est, je pense, dans ce cas de figure. Et c'est ce qui me ferait plutôt dire qu'il y a ici, dans cette mise en scène, dans cet agencement que Chris Marker crée entre la musique et cet éléphant en captivité, eh bien, une occasion artistique plutôt qu'une intention artistique.
Oui, pour moi, je vois quand même dans cette vidéo, au-delà des raisons plus ou moins claires et obscures, mais quelque chose d'étonnant, mais étonnant, quoi qu'il arrive.
Oui, on pense que ça peut être une chorégraphie, c'est sûr. Mais est-ce que les gestes, quand même, ce n'est pas la musique qui fait qu'on voit une chorégraphie, un acte artistique?
Alors, il y a la musique, mais il y a aussi le fait que ce soit filmé, le fait que ce soit produit comme du spectacle. Et donc, finalement, je pense que tous ces facteurs vont jouer ensemble et vont produire ce qu'on appellerait une intensification. C'est-à-dire, les choses prennent une densité particulière qu'elles n'auraient pas si elles étaient dissociées de l'ensemble de cet agencement. Et donc, c'est pour ça que je pensais plutôt occasion artistique plutôt qu'intention artistique.
Venez faire la biche.
filles qui ont pris des risques.
Allez-y ensemble, à ceux qui veulent. Là. Il y en a sûrement des spécialistes.
J'y vais. Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Jingle, Pascal.
On n'est pas si bêtes, Vincienne Desprez.
Bonjour, chers auditeurs. Nous nous retrouvons chaque semaine à l'émission On n'est pas si bêtes, enregistrée en public à Marseille. Et d'ailleurs, on les entend tous bramer, encore une fois. Très bien. Pour la Radio Belge et Radio France, merci beaucoup. Donc, nous allons aujourd'hui interviewer un artiste zoomorphe, Cyril Casmez.
Et oui, joie et grand honneur de recevoir l'Humain Animal ici, par excellence, de passage à Marseille lors de sa tournée, et qui nous fait le plaisir de venir nous voir, Cyril Casmez. Bonsoir, bonjour. Bonjour.
Bien. Bien, bonsoir Cyril. Alors nous parlons tout à l'heure de la beauté animale, n'est-ce pas? Si tout le monde a bien suivi. Et donc, qu'est-ce que c'est cette beauté? Est-ce que c'est celle-ci qui vous a poussé à devenir artiste pour la rencontrer? Ou alors par compassion? Ou par amour?
Les trois, mon capitaine. Alors, ça a commencé très jeune, hein. C'est-à-dire que, étant enfant, je suis tombé littéralement amoureux d'une vache. C'était une vache du Limousin, les très belles vaches marron rousses, un petit peu comme ça. Hein. Et je retrouvais cette vache régulièrement dans le Limousin où j'allais. Et cette vache s'appelait Briarde. Et là, dès que j'arrivais, je me mettais à quatre pattes avec elle dans les champs. Je gambadais, je mangeais de l'herbe, je la regardais en ruminant. On ruminait ensemble, en face à face. Et vraiment, je crois que c'était un amour réciproque. Vraiment, très réciproque. Et j'étais un petit peu l'enfant qu'elle n'aurait jamais. J'étais son veau d'adoption, parce que c'était une vache qui était destinée aux travaux des champs. Et ces vaches-là n'avaient pas de veau, il fallait qu'elles travaillent. Et alors là, évidemment qu'un jour, le fermier à qui elles appartenaient s'est inquiété, m'a dit que c'était plus possible, et mes parents aussi m'ont pris entre quatre yeux. Et là, ma mère m'a dit, cette vache, ta mère, cette mère de vache, cette vache n'est pas ta mère. Voilà, c'est la nature, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est biologique. Voilà, ta mère, c'est moi, et mon père qui était là, qui essaie, hein. Et du coup, j'ai fini par me résigner. Et toujours dans le roman familial, j'aurais été conçu lors d'un séjour prolongé de mes parents en Afrique du Sud. Oui, alors est-ce vrai à quelques semaines près, je ne sais pas. Mais en tout cas, mes parents auraient vécu là quelques temps, et dans une maison au milieu de la brousse, et entourés dans des endroits où c'était encore assez libre, d'animaux en liberté autour de la maison. Et ma mère me raconte que ces nuits africaines ont été bercées à sa grande inquiétude par le rire des hyènes, le feulement des lions, le barrissement des éléphants, et que finalement elle aurait été très émue, impressionnée au sens premier du terme de tous ces événements, et que finalement...
Je ne sais pas trop ce qu'elle a fait ces nuits.
Ben non.
C'est ça.
Oui. C'est moi qui ai pris.
C'est vous rendez la beauté perceptible par intensification et identification. C'est cela, n'est-ce pas? Intensification, identification.
C'est mon corps.
Mais oui, c'est votre corps.
Cyril, quand tu deviens animal, en fait, t'es un peu comme un... Ça, j'ai toujours pensé. T'es un peu comme un chaman.
Un médiateur? Un objet chamanique?
Oui, un passeur, peut-être.
Oui, une espèce.
Non, un genre.
Une espèce.
Ah non, un genre.
Une espèce.
Un genre.
Une espèce.
Un genre.
Une espèce.
Un genre.
Non.
Si.
Non.
Non.
Si.
Si.
Non.
Non.
Si. Si.
Non.
Non. Si.
Chers auditeurs, nous allons devoir rendre l'antenne. Il y a eu un débordement. Jingle.
On n'est pas si bête. Vincienne des Prés.
La clique.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est une loutre. J'entendais quelqu'un demander ce que c'était, c'est une loutre. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle joue ou elle pratique l'art du jonglage?
Alors, cette question, de nouveau, c'est difficile, mais justement, et ça manifeste quelque chose de très intéressant, qui est la profonde ambiguïté entre ce qui est de l'ordre de l'art de, ou même de l'art, et du jeu. Et pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a quelque chose qui est commun, c'est l'art du comme si, faire comme si, on disait que. Et c'est aussi autre chose qui est profondément commun, c'est l'art du détournement. En fait, dans le jeu, c'est très, très, très simple. Si vous avez déjà vu deux chiens jouer, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Qu'est-ce que font quand des chiens jouent? D'abord, ils font comme si. Le plus gros fait comme s'il était petit, le petit fait comme s'il était grand et fort et très méchant. Et puis, ils vont utiliser quantité de gestes qui servent normalement à d'autres fonctions. Alors, on va courir, on va se pourchasser, on va mordre, mais sans faire mal, on va grogner comme si on était très fâché, on va se monter dessus, on va rouler par terre, on va présenter son ventre comme si on s'avouait vaincu. Bref, tous ces gestes dans un autre contexte seraient liés à, par exemple, la fonction de l'agressivité. Et ici, ils vont être mis au service d'une théâtralisation, parce que le jeu, c'est toujours très théâtral. On amplifie les gestes, on les théâtralise. Il y a toujours une mise en spectacle dans le jeu. On surjoue, rien n'est sérieux, et pourtant le jeu est toujours très sérieux. Alors, on ne fait pas n'importe quoi dans un jeu. On ne mord pas vraiment, on court moins vite qu'on pourrait, si on était, parce que, surtout si on est plus rapide que l'autre. On fait semblant qu'on est vaincu, surtout si on est plus fort que l'autre, etc. En fait, le philosophe Gilles Deleuze disait, à propos de ces détournements, de cette théâtralisation, il disait que dans le jeu, comme dans l'art, le geste, les conduites prennent une nouvelle allure. Et alors, en fait, le changement de registre de ces gestes devient, en quelque sorte, ça ressemble de plus en plus à une espèce de chorégraphie où il y a un accord à la fois entre les joueurs et entre ceux qui prestent des espèces de performances artistiques. C'est de l'ordre de la grâce, moi, je dirais. Et c'est ce qui rapproche le jeu à ce moment-là, et qu'on appelle, dans son intention spectaculaire, dans cette mise en spectacle, avec d'autres situations qu'on rencontre, avec, par exemple, notamment la parade amoureuse chez certains oiseaux. C'est superbe. Il y a une surthéâtralisation qui est absolument incroyable dans les cours nuptiales. Et aussi, moi, j'ai beaucoup étudié ces derniers temps la théâtralisation chez les oiseaux dans les disputes aux frontières. Donc, je parle ici des oiseaux territoriaux. Eh bien, vous constatez qu'aux frontières, c'est des conflits qui n'en finissent pas. Mais en fait, ces conflits, il y a très peu de blessés, il y a très peu de dommages. Et en fait, c'est des conflits de spectacle. Ils jouent la comédie, c'est du bluff, disent les ornithologues. Et ils font danser les couleurs, ils font danser les plumes, ils font des gestes absolument extravagants. Et ils chantent à tue-tête, beaucoup plus que ce que la sélection naturelle n'aurait dû sélectionner normalement.
Et alors, donc la loutre là, qu'on a vue, elle jouait. On a vu à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu le regard qu'elle a eu sur le côté, comme si elle le faisait pour quelqu'un. Oui, vous avez vu? Est-ce que je pourrais vous repasser? On n'a pas le temps. Donc, on va donc.
Ça pourrait être le début des arts du cirque. Hein.
Oui, voilà. Tout à fait.
Là,
oui,
là,
oui.
Ça a peut-être commencé comme ça.
Et alors, Pascal?
Alors, on pourrait d'ailleurs se demander si, moi je vois les cygnes danser sur l'eau ici, mais une fois qu'on a dit ça, à ce moment-là, par le réseau d'analogie, vous vous dites, mais peut-être que le surf sait aussi danser sur l'eau, que le surfeur, c'est quelqu'un qui danse avec les vagues, et si on écoute les surfeurs, c'est ça qu'ils vous disent. Et alors finalement, ce que les cygnes ont, ben, c'est que nous, on a besoin de planches pour danser avec les vagues, enfin, pas Jésus. Oui, c'est mieux.
Quelle beauté, hein, animal. Alors ça, ce sont les grues de Manchourie. Et là, franchement, c'est pas du sport ni du jeu.
C'est peut-être habituel, quand même.
Oui, alors, c'est une parade nuptiale, ça c'est vrai. Mais quand même, c'est épatant, je trouve, c'est formidable. Et tu te rends compte que c'est... Ben, la femelle, elle est obligée de choisir quelque chose de très beau et de très abouti. Alors qu'est-ce qu'ils font? Et Luc Béton Béton. Luc Béton, qui a travaillé avec les grues de Manchourie, il a, disait avec sa compagne qu'en fait, vous connaissez Luc Béton? Non. En fait, il a travaillé avec des grues de Manchourie. Un danseur chorégraphe. Et il disait que justement, ils avaient inventé l'entrechat.
Ce sont les grues de Manchourie qui auraient inventé l'entrechat. C'était sa femme Marilène Ecclésias qui disait ça. Et ça fait des spectacles absolument extraordinaires. Alors, ici, donc, on a affaire clairement à des pariades nuptiales, mais on peut retrouver des gestes très similaires dans la façon dont les animaux vont créer des conflits aux frontières de leur territoire. Et puis quand on voit comment ces conflits se mènent, comment ils se conduisent, surtout comment ils sont recherchés par certains oiseaux qui vont vraiment chercher une oise au voisin, qui vont de temps en temps faire pipipipi, vous savez, de l'autre côté de la frontière, juste pour le provoquer, il y a certains ornithologues qui ont fini par penser, et je trouve que l'hypothèse est très jolie, que peut-être que ces oiseaux, en fait, ce qui les intéresse, c'est pas tellement de conserver un territoire, que le territoire est un prétexte pour les exhibitions, que c'est des trucs entre vieux garçons, en fait, c'est tout vous dire. Les femelles, un petit moment de l'année, mais en fait, c'est des trucs de mecs. On est à Oxford, quand on est sur des questions territoriales. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est les exhibitions, c'est de chanter mieux que les autres, d'avoir plus de gestes, etc. Et il y a même un ornithologue qui est allé jusqu'à dire, James Fisher, et deux ornithologues, il y a Fisher et Fraser Darling, qui ont dit, vous savez, territoire, hein, ce qui importe, c'est la périphérie, parce que c'est là qu'il y a de l'ambiance. Alors, si on reprend ces idées des ornithologues et qu'on va chez Gilles Deleuze et chez Étienne Souriau, on reprend l'idée que le territoire est traversé d'intentions spectaculaires et que c'est peut-être, et ça, tant Souriau que Deleuze le diront, que c'est peut-être là que se trouve la naissance de l'art, donc pas chez les primates, pas chez les humains, ça aurait peut-être commencé chez les oiseaux, quoique on va peut-être y revenir pour encore contredire cette idée. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, ça voudrait dire que le territoire, c'est pas tellement ce qui est défendu par des gestes agressifs, etc., mais que ce serait un prétexte à faire de l'art et à faire du beau et à s'exhiber. Et donc, le territoire serait peut-être mis au service de l'art plutôt que l'art au service du territoire.
C'est vrai.
Alors, merci de me relancer. Voilà, alors je devais continuer en vous disant qu'aujourd'hui, certains biologistes, enfin, aujourd'hui particulièrement, mais il y a déjà eu des entrées de ce type-là, c'est, beaucoup de biologistes commencent à envisager de sortir du fonctionnalisme. Par exemple, dire que le territoire est au service de la beauté, au service de la production de beau, c'est sortir du fonctionnalisme, c'est sortir de l'idée que tout doit être utile, que tous les comportements doivent servir, notamment à la reproduction ou à la survie. Et si on commence à sortir du fonctionnalisme avec certains de ces ornithologues qui commencent à imaginer que les oiseaux auraient du plaisir à s'exhiber, qu'ils auraient des trucs, des motifs de vieux garçons et des choses comme ça, eh bien ça veut dire qu'on commence à laisser beaucoup plus de marge de manœuvre aux animaux, à les penser non plus comme déterminés par des instincts, etc., mais comme étant capables d'invention, d'improvisation, et que même si certaines conduites qui sont utilisées parce qu'elles ont été sélectionnées auparavant pour certains usages par la sélection, eh bien, en fait, elles peuvent être détournées, comme dans le jeu, comme dans la parade nuptiale, et utilisées pour de nouvelles fonctions que les animaux inventeraient, répondre à d'autres motifs. Et Baptiste Morisot, d'ailleurs, qui a écrit de très beaux livres sur la question notamment de la diplomatie avec les animaux, disait que c'était peut-être là où on pouvait définir la liberté des animaux. C'est le fait qu'ils sont capables, à partir d'un répertoire qui a été sélectionné pour certains usages, de détourner ce répertoire pour d'autres usages, et que c'est là, dans ces marges de manœuvre, dans ces libertés, dans ces improvisations, dans ces inventions possibles, que la liberté résiderait chez les animaux. Alors, le biologiste Adolf Brodmann avait déjà commencé avec des perspectives très non fonctionnalistes. En fait, il disait par exemple qu'il n'était pas impossible que la beauté soit créée pour la beauté elle-même. Alors, au départ de son livre, on trouvera par exemple l'idée qu'il s'intéresse à la beauté, il appelle ça des apparences, donc des belles plumes, des belles couleurs et des choses comme ça. Ça pourrait être aussi des beaux chants, ce sont des choses données à voir et des choses données à entendre. Et il disait, bon, mais les apparences sont toujours adressées, disait-il au début. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un quelqu'un à qui s'adresse une couleur, à qui s'adresse une plume, à qui s'adresse. Et puis à la fin de son travail, il va revenir et il va dire, non, mais attention, il y a un problème. Il y a des poissons qui sont très, très colorés. C'est magnifique, et ils sont tous aveugles. À qui s'adressent les couleurs? Il n'y a personne pour les réceptionner, à part nous. Et donc, il y aurait des apparences inadressée, ce qui signifierait peut-être, et certains ornithologues vont reprendre cette idée, et certains spécialistes des poissons aussi, qu'il y aurait création de beauté pour la beauté.
En fait, tu veux dire que sous-entend qu'il y a une autonomie esthétique,
en quelque sorte, oui. Alors, qu'on va peut-être traiter de vitalisme, etc., mais je pense que la question, le débat ne serait pas de ce côté-là, ce serait plutôt de se dire comment est-ce qu'on sort du fonctionnalisme. Et je crois que c'est ça que Portman essaye de faire, c'est comment est-ce qu'on sort de ce qu'on appellera la morale bourgeoise de l'évolution. On ne fait rien d'inutile, pas de gaspillage, s'il vous plaît, tout doit servir à tout. Et je veux dire, sortir du fonctionnalisme, c'est sortir de cette morale bourgeoise, et notamment avec ce genre d'énigmes que sont ces expériences, ces apparences inadressées. Une beauté inutile, sans autre but qu'elle-même. Et donc, finalement, ce qu'on retrouve aussi chez les oiseaux jardiniers, on dit oui, mais ils séduisent les femelles, etc. Et visiblement, c'est plus compliqué que ça. Il y aurait, chez les oiseaux jardiniers, des recherches de la beauté pour elles-mêmes.
Mais est-ce que tu dis surtout chez les oiseaux ?
Alors, c'est ce qu'on a longtemps cru. Mais évidemment, on adore dire ça, nous, hein, les philosophes et les scientifiques. On a longtemps cru, mais maintenant, on sait que. Hein, comme si, voilà, bon, bref. On a longtemps cru, et maintenant, on ne croit plus, parce que, notamment, mais on aurait quantité d'autres exemples, c'est qu'on a découvert que les poulpes, les pieuvres, avaient des ambitions artistiques. Alors, je ne parle pas des poulpes en captivité qui sont capables des pires frasques et des meilleures choses, mais je parle des pieuvres en liberté. Et notamment, vous savez que le commandant Cousteau était revenu d'un de ses voyages pas très lointains, aux abords de l'île de Porquerolles. Et ils avaient observé, avec son collègue Frédéric Dumas, ils avaient découvert un village de poulpes, ce qui est déjà assez surprenant parce que les poulpes sont très solitaires. Donc là, ils avaient décidé, on fait village, les mecs, on s'entend bien et on fait. Mais ce n'était pas tout, ce village. C'était des véritables villas, avec une qui associait un toit plat, fait d'une large dalle, et soutenu par deux linteaux, de pierre, de briques, et devant l'entrée, ils ont découvert un rempart constitué de cailloux, de tessons de bouteilles, avec des poteries, des coquillages et des coquilles d'huîtres.
C'est une sorte de bric-à-brac, genre la maison du facteur cheval.
Alors, ce qui nous montre aussi que, et là, je veux dire, c'est les connexions entre art et architecture sont multiples, nombreuses, et il y a une vraie complicité. Et bien, les poulpes réinventent la complicité de l'art et de l'architecture.
Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est de cet ordre-là. Pascal ? Ce sont des poissons globes. Et vraiment, c'est des vrais, vrais dessinateurs sur sable, non ?
Oui, mais on est aussi peut-être dans un rituel.
Tu veux dire que c'est encore une préparation à une parade nuptiale et on attend la femelle et tout ça ? C'est ça ? Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression, alors peut-être que c'est pas de l'art, mais en tout cas, ils mettent tout leur cœur, toute leur âme à rendre quelque chose de joli.
Quand même à un moment, le nid le plus efficace, c'est ça le but de ce nid, à protéger les œufs des courants de l'eau.
Alors moi, je partirai ailleurs avec cette histoire-là, justement, parce que, alors le fonctionnalisme, on sait bien, ça fonctionne tellement bien, d'où son nom, hein, le fonctionnalisme, ça fonctionne toujours. Vous cherchez des usages, vous en trouverez toujours. Et cette lecture-là, elle est omniprésente dans le monde animal. Alors, comment est-ce qu'on peut... soit on peut essayer de trouver de l'inutilité, soit on prend le problème par un autre bout. Et si j'ai envie de le prendre par un autre bout, qu'on n'avait pas prévu, il nous reste encore 5 minutes. Et je me disais... mais je repense à Souriau, donc ça c'est un point où on va quand même arriver. Qu'est-ce qui arrive à ce poisson mâle? Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, lui? Donc laissons tomber la femelle pour le moment. Je ne dis pas que ce n'est pas important, vous allez croire que moi aussi je suis allée à Oxford, non, ce n'est pas le cas. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train... Et je me souviens d'un de mes étudiants, mon doctorant, qui est brillantissime, Thibaut de Meyer, qui m'avait dit, les parades, etc., tout ça, ça relève du masque. Les parades... nuptiales, etc. On est dans l'ordre du masque. Il dit, et qu'est-ce que c'est qu'un masque? C'est magnifique, sa définition. C'est un activateur de puissance. Et ça active les puissances de celui à qui on s'adresse, parce qu'on est masqué. Et ça active surtout les puissances de celui qui porte le masque. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça fait à ce poisson de fabriquer cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'il met tant de soin? Il faut quand même se poser la question, pourquoi tant de talent, tant de soin, alors qu'un petit trou dans le sable pourrait faire effet? Alors oui, la femelle peut peut-être juger de ses capacités, mais passons pas par là, passons par ce que lui fait. Et je me souviens d'Étienne Souriau, dans le monde artistique des animaux, expliquait ceci, il disait, vous savez, quand une mésange mâle commence à construire le nid, assez rapidement une femelle va venir l'aider, mais ce qui est en train de se passer du point de vue du mâle, c'est que plus il construit le nid, plus il est amoureux. La construction du nid enamoure l'oiseau. Le fait de fabriquer le nid le met d'une certaine manière dans des dispositions, lui donne des affects, lui donne des puissances amoureuses, que le nid, d'une certaine manière, on dirait, on inverse la causalité, mais sans l'inverser totalement. On sait bien que c'est la puissance amoureuse qui pourrait faire construire le nid, mais il faut penser que la construction du nid augmente la puissance amoureuse. Alors moi, je me dis, pour ce poisson globe, non pas nier le fonctionnalisme, non pas nier que la femelle peut être sensible et que la sélection naturelle, etc., mais penser, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train lui-même de gagner en puissance par rapport à ce qu'il va devoir faire par après? Comment est-ce que, d'une certaine manière, en mettant tout son cœur et toute son âme, j'étais élevée chez les chrétiens, on faisait toujours tout de tout son cœur, moi, quand j'étais petite, eh bien, d'une certaine manière, pour revenir à des propos moins chrétiens, il change les affects, c'est-à-dire il est peut-être en train de construire son propre désir, sa propre puissance. Faire le nid, activer son désir, et bien peut-être que le nid, cette construction, rend le mâle plus désirant.
Plus désirant, pas plus désirable.
Non, non, plus désirant.
Ça me tient à cœur, hein, ça me tient à cœur. Désirable, désirant. Alors, pour terminer la boucle, on a vu les éléphants peindre, bon, si on veut, et mais il n'y a pas que. Pascal ? Accéléré, hein. Et si vous voulez, vous pouvez nous attendre à la sortie et vous pouvez acheter cette toile aux enchères. C'est l'œuvre de Cyril Caspig.
Bravo, voilà.